Manuel Valls tente d'assurer le service après conclave. Le ministre des Outre-mer a été interpellé la nuit dernière par 2 députés et 2 sénateurs. L'actualité judiciaire, suite et fin normalement du procès de Calédonie Ensemble aujourd'hui. Philippe Gomès et 4 autres cadres du parti sont jugés pour détournement de fonds publics. Du nickel calédonien aux États-Unis, le gouvernement a autorisé la société Montagna à exporter 200 000 tonnes de minerais saprolithiques. Explication dans ce journal. L'actualité internationale, Vladimir Poutine sera-t-il à Istanbul? C'est la question sur toutes les lèvres. La question se pose toujours même à quelques heures de l'ouverture des négociations. En cyclisme, 3 sur 5 pour Mats Pedersen. Le Danois a remporté une nouvelle étape sur le Giro. Il reste en rose avec 17 secondes d'avance sur Primoz Roglic. La météo en Nouvelle-Calédonie, large soleil sur l'ouest et la pointe nord. De faibles averses sous un ciel plus nuageux sont possibles ailleurs. Les températures maximales sont stables ou commencent légèrement à monter, généralement comprises entre 27 et 29 degrés.
Bienvenue dans Info Matin pour tout savoir de l'actualité en Calédonie, en métropole et dans le monde. Bonjour Nicolas.
Bonjour Thierry, bonjour à tous.
Et à la une, l'actualité calédonienne à Paris.
Oui, il en a beaucoup été question. Cette nuit, une semaine après l'échec des négociations sur le futur statut du territoire, le ministre des Outre-mer, Manuel Valls, de retour à Paris, a été interrogé sur le dossier calédonien. Ça s'est passé lors des séances de questions au gouvernement, d'abord à l'Assemblée nationale, puis ensuite au Sénat. À l'Assemblée nationale, tout d'abord, la députée de Mayotte Liyotte, Estelle Youssoufa, a fait un parallèle entre la situation à Mayotte et en Nouvelle-Calédonie et elle a reproché au ministre des Outre-mer d'avoir proposé aux Calédoniens une indépendance association après les 3 noms au référendum. Écoutez la réponse de Manuel Valls.
La Nouvelle-Calédonie a une trajectoire singulière. Son histoire est celle d'une colonisation de peuplement et pénitentiaire brutale. Il y a un peuple premier, les Kanaks, qui a connu la ségrégation. Elle est inscrite sur la liste des pays à décoloniser des Nations Unies. 3 référendums, vous avez raison, ont refusé l'indépendance, même si le 3e a laissé un sentiment d'inachevé. Mais cela ne signifie pas la fin du processus de décolonisation et d'autodétermination qui est incontournable si l'on veut la stabilité et la paix. Les accords de Matignon et de Nouméa cherchent à concilier la recherche d'un lien fort avec la France et l'aspiration à la souveraineté. C'est mon choix, c'est notre choix, un partenariat solide et durable avec la France et j'ai toujours bon espoir qu'on y arrive et les discussions continuent. Moi, ce que je veux, Madame la députée, c'est la paix civile en Nouvelle-Calédonie, c'est qu'on ne refasse pas les mêmes erreurs et ce qu'on puisse trouver, oui, l'accord et le chemin commun qui étaient inscrits dans les accords de Nouméa.
Et dans la foulée, la députée Liyotte de Mayotte, Estelle Youssoufa, lui a répondu et a exprimé son désaccord profond.
Monsieur le ministre, ce que vous venez de dire est gravissime. Vous venez, malgré les 3 votes contre l'indépendance, de maintenir ici, devant la représentation nationale, que vous la mettez sur la table. Vous savez parfaitement que la décolonisation ne signifie pas l'indépendance automatique. Et ce que vous êtes en train de dire, c'est que quelle que soit la position de la majorité en Nouvelle-Calédonie, vous allez imposer l'indépendance. C'est grave.
Le ministre des Outre-mer a ensuite été interrogé sur la situation en Nouvelle-Calédonie par le député des Bouches-du-Rhône, Olivier Fessa, du groupe UDR, présidé par Éric Ciotti. Manuel Valls a redit qu'il fallait avant toute chose, selon lui, aboutir au processus de décolonisation et permettre l'exercice du droit à l'autodétermination. 2 conditions, vous venez de l'entendre, indispensables selon le ministre des Outre-mer pour garantir une paix durable en Nouvelle-Calédonie. Et après l'Assemblée nationale, je le disais, le ministre des Outre-mer n'en avait pas encore terminé avec le dossier calédonien, car 1 heure plus tard, lors de la séance des questions au gouvernement, mais cette fois au Sénat, il a de nouveau été interrogé, notamment par le sénateur socialiste du Val-d'Oise, Rachid Temal. Il a demandé au ministre des Outre-mer quel était son objectif avec sa proposition. Écoutez la réponse de Manuel Valls.
Et notre méthode a permis que tous les partenaires, tous, se retrouvent autour de la même table pour négocier, pas seulement discuter, ce qui était impensable il y a quelques mois. Car les fractures sont profondes après le traumatisme du 13 mai et les inacceptables violences qui ont de nouveau fait couler le sang. Et la rupture de confiance, vous le savez, trouve cependant son origine dans une histoire ancienne qu'il nous faut regarder en face. Et tant que nous n'aurons pas réglé la fin du processus de décolonisation et l'exercice du droit à l'autodétermination du peuple kanak, nous n'aurons pas les conditions du dialogue et de la paix civile. Nous avons proposé, et j'ai proposé, une voie, sans prononcer d'ailleurs de formule particulière, qui concilie l'aspiration d'un maintien d'un lien fort avec la France et l'achèvement du processus de décolonisation. Ce dialogue va se poursuivre. Je pense que ce dialogue peut être fructueux dans les jours et dans les semaines qui viennent. Jean-Marie Djebbaou, Jacques Lafleur, Michel Rocard ou Lionel Jospin, j'ai beaucoup pensé à eux ces derniers temps, sans aucune nostalgie, mais parce qu'au nom d'une certaine idée de la responsabilité, ils indiquent le chemin qu'il faut entreprendre.
Manuel Valls estime donc que le dialogue peut être fructueux au cours des prochaines semaines. Le sénateur calédonien Georges Naturel a donc demandé au ministre des Outre-mer quelles initiatives politiques il allait prendre après l'échec des dernières négociations et à quelle date seraient fixées les prochaines élections provinciales et surtout avec quel corps électoral. Écoutez Manuel Valls.
Un nouveau report des élections apparaît en l'absence d'accord difficile politiquement et juridiquement. Mais j'ai bon espoir que les discussions se poursuivent, car j'ai déjà eu l'occasion de le dire, il faut un accord. Ainsi, je ne veux pas m'avancer tout de suite, ni sur une date d'organisation des élections, ni sur la question du corps électoral. Je considère que nous avons encore un peu de temps pour permettre le rapprochement des points de vue. Mais je veux dire clairement les choses. Comme on ne peut pas faire un référendum sans les Kanaks, on ne peut pas faire une réforme du corps électoral contre les Kanaks. Et fort de cette maxime, je vous invite à réfléchir et à participer, et vous le ferez, je le sais, cher Georges Naturel, à toute solution qui permet d'avancer vers un compromis.
Voilà donc pour ces propos recueillis à l'Assemblée nationale et au Sénat par notre correspondant à Paris, Xavier Robert.
À Radio Rythme Bleu, 6h37.
La suite du journal avec l'actualité judiciaire sur le territoire à présent, avec aujourd'hui ce qui devrait être le dernier jour du procès de 5 cadres de Calédonie Ensemble, qui comparaissent, je le rappelle, depuis le début de la semaine pour des soupçons de détournement de fonds publics. Lionel Sabot.
Et hier, une bonne partie de la journée, c'est Philippe Gomez qui s'est expliqué à la barre, le leader de Calédonie Ensemble, qui a très longuement expliqué et réexpliqué la méthode de recrutement des collaborateurs. Est revenu sur les missions exactes de ces fameux collaborateurs. Tout au long de la journée et à plusieurs reprises, Philippe Gomez a redit ou laissé entendre au gré de ses déclarations que le texte qui fixe les conditions de recrutement et de rémunération des collaborateurs était sans doute à revoir, à réformer. On parle ici de cette fameuse délibération sans CP qui aura finalement été au cœur des débats tout au long de cette semaine. Répondant aux questions du procureur de la République, Yves Dupas, Philippe Gomez a jugé contestables les témoignages lors de leurs auditions au moment de l'enquête, de plusieurs collaborateurs et notamment ceux qui ne maîtrisaient pas le français. Leurs réponses sont en fait des raccourcis sémantiques et Philippe Gomez de reprocher en quelque sorte au procureur de la République de vouloir faire de ces raccourcis sémantiques des outils juridiques. En réponse à la dernière question du ministère public qui s'interrogeait sur le fait qu'embaucher des collaborateurs wallisiens et futuniens aurait pu asseoir une forme de clientélisme pour une communauté représentant un capital de voix important, Philippe Gomez a déclaré « Nous n'avons volé d'argent à personne, nous n'avons fait que notre travail ». L'audience d'hier s'est terminée avec les plaidoiries de la partie civile, une audience qui devrait reprendre ce matin à 8h avec les réquisitions du ministère public.
Justice encore avec la suite de la deuxième session d'assises de l'année. Ces deux prochains jours, les jurés se pencheront sur la première affaire de sang, celle d'un assassinat remontant au 27 décembre 2020 à Calagomène. L'accusé a tiré à bout portant à l'aide d'un fusil dans l'aine de la victime âgée de 21 ans avec qui il avait eu un contentieux la veille. Écoutez les précisions de Philippe Faisandier, le procureur général par intérim.
Quelques jours avant les faits, une rixe a opposé l'accusé à trois de ces personnes, donc deux témoins et la future victime. Rixe au cours de laquelle l'accusé n'a pas eu le dessus et donc il a décidé de se venger. Il s'est donc présenté devant la maison de la mère de l'un des témoins. Il a ouvert le feu en direction de cette maison. Tous ces jeunes sont partis en courant pour se mettre à l'abri. Loin d'arrêter son action, l'accusé, avec son véhicule, est parti à la recherche des fuyards. Et malheureusement, on a retrouvé un. Et il lui a tiré dessus, quasiment à bout portant, à une distance très courte, en tout cas comprise entre 1,20 m et 2 m. Le coup de feu s'est avéré mortel. Il a été tiré au niveau de l'aine et des blessures extrêmement graves ont entraîné le décès de la victime.
Et pour cette défense, l'auteur des faits présumés a déclaré qu'il possédait plusieurs cartouches avec lui le jour du drame. Certaines avaient été remplies avec du riz et d'autres contenaient du plomb. Il aurait alors pris une cartouche sans vérifier son contenu avant de tirer. Mais selon l'expertise, le tir aurait de toute façon été fatal. L'auteur des faits s'est rendu de lui-même à la gendarmerie après avoir pris la fuite. Un accusé qui encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Trois fugitifs de la prison de Koné sont toujours recherchés par les forces de l'ordre. Dans la nuit de lundi à mardi, cinq individus s'étaient échappés en escaladant le mur d'enceinte. L'un d'entre eux s'était blessé lors de l'opération et grâce aux moyens déployés en nombre pour retrouver les fugitifs, deux ont été découverts à Koné. Les recherches se poursuivent pour les trois autres. La gendarmerie appelle la population à composer le 17 pour transmettre toute information utile. Dans l'actualité sociale, à présent, ce débrayage des enseignants du lycée Pétro à Titi ce matin entre 9h20 et 10h20. Ils cesseront le travail pendant une heure pour protester après l'agression d'une professeure. C'était mardi. Écoutez Fabienne Cadoca, secrétaire générale du syndicat de la fonction publique SFP-SGC.
Une enseignante qui était en cours a eu un intrus qui est rentré dans sa classe, une personne extérieure à l'établissement, cagoulée, qui est entré pendant son cours dans la classe et qui lui a dérobé son sac à main et qui est sorti en courant de la salle avec son sac à main. C'est un débrayage d'une heure hein, pour sensibiliser les personnes du quartier, pour sensibiliser les institutions. On sait qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont faites sur le quartier. Les forces de l'ordre sont présentes, on a la police nationale, la police municipale qui tournent. Mais a priori, c'est pas suffisant, quoi. Enfin, au moins qu'il y ait un vigile devant cette école, que personne ne puisse rentrer comme ça. C'est pas possible qu'un intrus puisse venir comme ça dans une salle de classe. Là, les collègues sont vraiment inquiets de la situation.
Et le débrayage aura donc lieu ce matin entre 9h20 et 10h20 sur les sites de Pétro à Titi et de l'école Morissette de Vambèze, où une partie des élèves est accueillie depuis les émeutes de l'an dernier. En bref, les bus du réseau Taneo ont repris leur service à 11h hier matin au lendemain des faits de caillassage survenus sur plusieurs véhicules du SMTU. Les chauffeurs ont décidé hier d'exercer leur droit de retrait. Par ailleurs, toujours à la suite des jets de projectiles sur des cars Taneo, le SMTU a annoncé des adaptations jusqu'au samedi 17 mai. Le service sera assuré de 6h30 à 10h30 le matin et de 14h à 18h l'après-midi. Samedi, les bus effectueront un passage par heure avec une fin de service entre 17h30 et 18h selon les lignes. De plus, l'ensemble des services de la ligne 8 s'arrêteront à l'arrêt du lycée du Mont d'Or. Les services reprendront aux horaires habituels sur l'ensemble des lignes à partir de lundi prochain, ainsi que la desserte du Mont d'Or Sud. Le SMTU a condamné ces caillassages et a rappelé que ces faits de violence pénalisent la population et fragilisent la pérennité du réseau Taneo.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Et c'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Voici tout d'abord la réponse à la question d'hier. 91% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS disent suivre avec intérêt le procès des emplois fictifs. Ils ne sont que 9% à dire que cela ne les intéresse pas. Voici maintenant notre question du jour. Les conducteurs de Taneo ont-ils raison, selon vous, de débrayer pour protester contre les caillassages dont ils sont la cible? Si vous pensez qu'ils ont raison, vous tapez 1, sinon vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse par SMS au 3146. Merci pour votre participation et rendez-vous demain pour la réponse à la question du jour. Vos rendez-vous sur notre antenne. Les partenaires sociaux et le gouvernement ont signé en début de semaine un accord cadre issu de discussions menées lors du séminaire social et fiscal. Alors que contient cet accord? Comment va-t-il se décliner? Et selon quel calendrier? Ce sera le thème des jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu aujourd'hui à midi. Jean-François Bodin recevra le membre du gouvernement en charge du secteur, Christopher Gigès, ainsi que le secrétaire général adjoint de l'USOINC, Alexis Falematagia, et le vice-président du MEDEF, Bertrand Courte. Rendez-vous donc à midi. Et puis un autre rendez-vous sur Radio Rythme Bleu, c'est Jean-Christophe Niotou, le président de la Chambre d'agriculture et de la pêche, qui sera notre invité à 7h30. Il rentre d'une mission en Polynésie pour envisager l'exportation et la commercialisation de viande calédonienne à Tahiti. Nous verrons avec lui si cette perspective va pouvoir se concrétiser et si oui, dans quel délai. En attendant, il est 6h passé de 44 minutes. On va marquer une première pause dans ce journal avant de voir le reste de l'actualité en Nouvelle-Calédonie avec notamment les décisions du gouvernement.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Des problèmes de termites, de bois, de sol ou d'insectes rampants? Pensez Flic Pest Control. Depuis 40 ans présent sur le territoire, Flic Pest Control, c'est le numéro 1 de la désinsectisation de la lutte anti-termites. Traitement par pulvérisation, perçage et injection, épandage ou pose de piège. Flic Pest Control, 75 rue Arnold Delay à Wemo. Un numéro 28 94 20.
Accueil détendu, équipe dynamique, toujours un sourire au Bilboquet Plage.
En tête à tête ou avec des amis, toujours de la place au Bilboquet Plage.
De la simple salade au saumon fumé, toujours un grand choix au Bilboquet Plage.
Du soleil de midi aux 12 coups de minuit, toujours nous servons au Bilboquet Plage.
Au Palm Beach à Lonsvata, face aux îlots, Bilboquet Plage, un plus pour le week-end. RRB 6h-8h, Nicolas Legrand.
La suite du journal avec l'actualité en Nouvelle-Calédonie et cet avant-projet de loi du pays pour protéger les consommateurs contre les pratiques commerciales illicites. Il a été adopté hier par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie lors de sa séance hebdomadaire, Lionel Sabot.
Le gouvernement durcit les sanctions à l'encontre des promoteurs de systèmes de vente pyramidales, ces systèmes qui font croire aux consommateurs qu'ils peuvent gagner de l'argent rapidement alors qu'il s'agit purement et simplement d'escroqueries. Les précisions du porte-parole du gouvernement, Christopher Gigès.
On a eu plusieurs exemples ces dernières années avec des promotions You Should Be Here ou autres, où au final on rassemble des Calédoniens qui doivent en ramener d'autres, et au final il y a une partie d'entre eux qui se font escroquer parce qu'ils pensent avoir soit des voyages moins chers, soit des produits moins chers, et ils perdent en argent à la fin. Donc là, la volonté a été de bien définir ce type d'arnaque et mettre des sanctions qui correspondent à l'acte frauduleux qui est réalisé, puisqu'on avait jusqu'à présent une amende de 500 000 francs, et donc on a souhaité s'aligner avec la métropole sur ce sujet et passer, avoir une augmentation sensible à 35 millions, plus 2 ans de prison potentielle pour la personne qui organise ça.
Et si le gouvernement a choisi de légiférer, c'est parce que les escrocs profitent de la détresse actuelle de nombreux consommateurs calédoniens.
Il y a quelques semaines de ça, on avait fait un communiqué pour alerter les Calédoniens d'une recrudescence de ce type d'agissement sur les réseaux sociaux, où certains promettaient monts et merveilles sur soit des villas, soit des voyages, soit des téléphones, et il fallait créer une communauté de réseau et qu'il fallait payer une redevance ensuite à la personne qui l'avait emmené. Et donc, on voit que les Calédoniens sont dans une situation de baisse massive de pouvoir d'achat. Et il y a des petits malins qui essayent de se servir de cette situation dramatique pour pouvoir les escroquer. Donc, on a voulu répondre à ça autrement que par un simple communiqué de presse, mais en légiférant sur la question.
L'avant-projet de loi du pays vise donc à préciser la définition des pratiques commerciales dites à la boule de neige et à durcir les peines encourues en signalant, en s'alignant sur le dispositif métropolitain. Quant à la loi de pays sera adoptée, ces faits seront passibles d'une amende de 35 millions de francs et de 2 ans d'emprisonnement. De plus, les services de police et de gendarmerie seront désormais habilités à intervenir.
Dans un tout autre domaine maintenant, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a autorisé la société minière Georges Montagna à exporter de la saprolite aux États-Unis.
La société minière Georges Montagna, qui est le 4e exportateur de minerais de Nouvelle-Calédonie, exportait jusqu'à présent vers le Japon et vers la Chine. Elle a été autorisée à céder du minerai de type saprolitique au profit de la société Atlas Materials, qui est basée aux États-Unis à raison de 200 000 tonnes par an pour une période de 3 ans.
On a des opérateurs à l'export minier qui aujourd'hui sont quand même très dépendants de nos clients traditionnels que sont la Chine, le Japon ou l'Australie, et qui essayent de diversifier leurs exports. Et donc là, la société des mines de Montagna a souhaité avoir un test sur les États-Unis avec une société qui a un procédé d'extraction de nickel qui est très bénéfique au point de vue de l'environnement. Donc on a souhaité autoriser 200 000 tonnes pour la société des mines de Montagna pour qu'elle puisse faire ce test avec les États-Unis. Le positionnement de la Nouvelle-Calédonie, il reste quand même sur un nickel qui est une teneur importante, en l'occurrence c'est pas le cas sur cette exportation, mais ils sont aussi en demande d'un nickel qui est propre et de se constituer des stocks stratégiques et éviter que la Chine prenne toutes les stocks stratégiques de nickel. C'est ce qu'on a essayé de pousser et c'est ce qu'on continue à vouloir pousser avec des stocks stratégiques au niveau européen. Donc je crois que les États-Unis sont aussi dans cette logique et c'est très bien d'avoir une diversification des clients.
L'accord commercial prévoit l'approvisionnement en minerais de nickel de la première usine commerciale d'Atlas aux États-Unis. Il s'agit d'un test et le dossier sera suivi par la DIMINC et par le président du gouvernement qui est en charge du secteur.
Et justement, le gouvernement a aussi acté une modification des secteurs entre ses membres, Samuel Népéo n'ayant fait part de sa volonté de ne plus être chargé du secteur du transport aérien domestique. Celui-ci est attribué au président du gouvernement, Alcide Ponga, qui récupère donc l'ensemble du transport aérien, international et domestique. Et le secteur des infrastructures aéroportuaires est confié à Samuel Népéo. L'actualité institutionnelle toujours à une séance publique pour les élus du Congrès ce matin. Ils doivent examiner une proposition de loi du pays qui concerne l'exploitation des œuvres cinématographiques dans les établissements concernés. La séance se poursuivra par l'examen de 4 délibérations. Elle concerne la garantie d'emprunt accordée par la Calédonie à Aircal avec des demandes de report, le financement des œuvres d'art dans les constructions et infrastructures publiques de Nouvelle-Calédonie, la reconnaissance des professions artistiques et enfin une modification des représentations des collectivités publiques au sein des établissements publics culturels de la Nouvelle-Calédonie. Toujours à propos de l'actualité du Congrès, son secrétaire général annonce avoir reçu une demande de seconde lecture, c'est-à-dire de nouvelles délibérations sur l'ensemble de la loi du pays sur le domaine public de l'eau et la protection de la ressource. Le texte avait été adopté après de vifs débats le 29 avril dernier. Cette demande de nouvelle lecture a été déposée par 18 conseillers, les élus de l'intergroupe loyaliste et rassemblement et une élue sans étiquette. Un rendez-vous à noter dans votre agenda qui commence aujourd'hui. Le Salon des métiers d'art spécial Fête des Mères s'ouvre ce matin et pour 4 jours à la Maison des artisans à Nouville. Rappelons que la Fête des Mères aura lieu le dimanche 25 mai prochain. Les visiteurs découvriront sur place plus de 50 artisans passionnés, membres de l'AMAC, l'association Les métiers d'art calédoniens, qui présenteront leurs créations locales. Le Salon des métiers d'art spécial Fête des Mères est ouvert de 9h à 17h et dimanche de 9h à midi. Et puis enfin sur Radio Rythme Bleu, vous le savez, il n'y a pas de jour sans jeu. Et bravo à Ariel qui habite à Nouméa. Elle a envoyé hier RRB au 40-20 au bon moment puisque c'était en effet le 1500e SMS. Et c'est donc elle qui a remporté un bon d'achat de 100 000 francs à dépenser où elle veut et quand elle veut. Vous pouvez bien sûr continuer à jouer pour être le prochain gagnant. RRB au 40-20. Dans tous les cas, les SMS sont remis en jeu pour le prochain tirage du million qui aura lieu le vendredi 6 juin à 14h. Chaque SMS compte, hein, n'oubliez pas, il suffit d'envoyer RRB au 40-20.
Info matin, 6h51.
L'actualité dans la région Pacifique à présent en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Les couloirs de la maternité de l'hôpital de Port-Moresby débordent de patientes qui viennent tout juste d'accoucher et qui sont entassées dans des conditions précaires d'hébergement post-natal. C'est la correspondance ce matin de Jean-Pierre Zajac.
La dite maternité a été construite dans les années 50. Elle était supposée accueillir 10 000 nouvelles mamans par an lorsqu'elle a été bâtie. Ce chiffre a été atteint dans les années 90 et rien n'a été entrepris depuis pour l'agrandir. Ceci dans un pays où le dernier recensement remonte à 2010. Il est estimé que la population oscille aujourd'hui entre 12 et 17 millions d'habitants et qu'en moyenne, un bon millier d'entre eux grossissent chaque jour les rangs de ceux qui viennent tenter leur chance à Port-Moresby. Les structures hospitalières n'ont pas suivi et telle semble être la généralité dans l'ensemble d'un pays où les responsables politiques et les investisseurs favorisent plutôt la construction de supermarchés et de grands hôtels. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
Il est 6h passé de 53 minutes. Vous écoutez Radio Rythme Bleu. On marque une nouvelle pause dans ce journal avant de voir l'actualité en métropole et dans le monde, avec notamment l'ouverture prochaine de ces négociations entre la Russie et l'Ukraine pour trouver une paix durable.
RRB, 6h-8h, Nicolas Legrand.
3 francs de remise tous les jours et le mardi c'est même 5 francs et des points accumulés.
Avec vos stations Shell et Pacific, bénéficiez d'une remise sur le carburant de 3 francs par litre tous les jours grâce à votre carte fidélité. Et encore mieux, c'est 5 francs par litre le mardi et tous les jours que je cumule des points qui se transforment en bons d'achat. Les stations Shell et Pacific, toujours à vos côtés pour économiser.
Les démarches en ligne, ça facilite la vie.
La facture électronique, c'est simple et écologique.
J'ai toujours eu un accueil sympathique et la réponse adaptée.
Kiwatt, c'est chouette, car on recharge quand on en a besoin.
Chaque jour, les collaborateurs d'EEC agissent pour vous. EEC, partageons plus que de l'énergie. Construisons notre pays, économisons l'énergie.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Excellent début de journée. La suite de votre journal avec l'actualité nationale et internationale. On retrouve Nicolas Legrand.
Et François Bayrou devant la commission parlementaire concernant l'affaire Betaram. Le Premier ministre maintient qu'il n'a jamais eu d'autres informations que celles de la presse concernant les violences et notamment sexuelles au sein de l'établissement. Jacques Serret pour Europe 1.
Oui, face à la présidente de la commission, la députée socialiste Fatia Keloua-Hachi, François Bayrou se montre offensif.
Le premier mot qui me vient quand je pense à cette audition, c'est enfin. Pour moi, cette audition est très importante.
Importante selon lui pour toutes les victimes de violences sexuelles.
Que ce soit à Betaram ou comme nous le découvrons tous les jours, en beaucoup d'autres établissements scolaires et en beaucoup d'autres institutions.
Avant de se défendre point par point.
Jamais je n'ai entendu parler de violences graves et jamais je n'avais entendu parler de violences sexuelles, jamais. Et c'est uniquement par la presse en 1995 et 1997 que je n'ai entendu parler.
Ce qui ne convainc pas le rapporteur de la commission, le député insoumis Paul Vannier, François Bayrou livre alors le fond de sa pensée sur les travaux de cette commission.
Je n'ai pas eu le sentiment que la commission était totalement objective.
Le Premier ministre dénonçant une méthode d'accusation dont l'unique but à ses yeux serait de nourrir un procès en scandale.
L'actualité à l'étranger à présent et ses négociations très attendues d'ici quelques heures maintenant entre la Russie et l'Ukraine. Après plus de 3 ans de guerre, des délégations des deux pays doivent se rendre à Istanbul, en Turquie, pour évoquer les modalités d'un cessez-le-feu. Ces discussions ont été proposées le week-end dernier par Vladimir Poutine. Mais la grande question qui se pose à quelques heures de l'ouverture de ces négociations, c'est qui sera présent à Istanbul ? Caroline Baudry pour Europe 1.
Volodymyr Zelensky, avec certitude, c'est lui qui exhorte Vladimir Poutine à venir en personne, comme convoqué en duel, puisqu'il a initié l'idée. Silence radio du côté de la Russie, qui refuse de révéler la composition de sa délégation. Le président ukrainien se tourne également vers son homologue américain, dont la présence inciterait, selon lui, son ennemi à se déplacer. Possible, répond Donald Trump, à condition d'y rencontrer Poutine. À ce stade, Marco Rubio, le chef de la diplomatie américaine, est attendu à Istanbul. Nous n'avons pas peur des réunions, lance ce soir Zelensky, qui se dit prêt à toute forme de négociation. Les Européens et Washington exigent un cessez-le-feu inconditionnel de 30 jours. Le Kremlin ne l'exclut pas, mais souligne que les discussions doivent porter sur les causes profondes et historiques du conflit. Autrement dit, il semble conserver sans surprise ses exigences maximalistes, la reddition de l'Ukraine et son renoncement à rejoindre l'OTAN.
L'actualité culturelle à présent, le film du jour du Festival de Cannes, c'est bien sûr Mission Impossible. Toute l'équipe du film est venue présenter le 8e et paraît-il dernier opus. La star de la saga, Tom Cruise, a pris un véritable bain de foule sur la croisette. L'acteur américain a été accueilli par ses fans, comme Delphine qui est venue pour...
Non, pas pour ce festival, pour Tom Cruise. Arrivé hier, parti demain. On est là depuis 9h ce matin pour pouvoir l'approcher. Un rêve d'il y a longtemps, très longtemps. C'est l'acteur qui dépasse tout. Qui a un sourire sublime, qui donne tout à ses fans quand même. Hein, et on est là pour lui dire merci et puis qu'on l'aime quand même.
Et c'est la troisième fois que Tom Cruise foule le tapis rouge de Cannes après une première apparition en 1992 et une autre 30 ans plus tard en 2022. La patrouille de France avait d'ailleurs survolé la croisette pour saluer l'acteur de Top Gun. Il est 6h57, on marque une dernière pause dans ce journal avant de voir toute l'actualité sportive en compagnie de Lionel Sabot avec notamment du cyclisme et la suite du Tour d'Italie.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Il commence à faire frais, j'aurais bien besoin de nouveaux vêtements chauds. Ne tardez pas, jusqu'au 25 mai, direction Gémeaux pour y découvrir la nouvelle collection hiver qui réchauffera toute la famille à petit prix, sans oublier les idées cadeaux pour la fête des mères.
Gémeaux, taillé pour la vie de famille.
Les opticiens mutualistes vous proposent des montures de marque classique ou tendance et des verres top qualité de nos verriers Zeiss ou Essilor. Chez les opticiens mutualistes, trouvez au juste prix les montures et les verres qui vous conviennent pour un vrai plaisir de voir. Les opticiens mutualistes à Nouméa, La Foy et Koné.
Mazda, des véhicules à découvrir. Mazda, un monde d'élégance, de raffinement et de performance. Mazda Citadine, Mazda SUV et compact SUV, ainsi que le nouveau pick-up Mazda, des véhicules et des offres exceptionnelles sur toute la gamme. À visiter dès à présent en concession au showroom Mazda, situé 174 rue Auguste Bénébigue, Magenta. Mazda vous souhaite une bonne route.
RRB, première radio d'information.
L'actualité sportive, on retrouve Nicolas Legrand.
Avec du cyclisme, et on courait cette nuit la 5e étape du Giro, une étape longue de 151 km qui s'est achevée au sprint, Lionel Sabot.
Oui, un sprint disputé dans les rues de Matera et qui a été remporté par le Danois Mads Petersen. Sa troisième victoire déjà dans cette 108e édition dont il porte le maillot rose de leader au classement général. Petersen s'est imposé de justesse devant l'Italien Edoardo Zambinini et le Britannique Todd Pidcock. Une nouvelle victoire qui permet à Pedersen d'accentuer évidemment son avance au classement général. Ce matin, il compte 17 secondes d'avance sur le Slovène Primoz Roglic et 24 secondes d'avance sur le Tchèque Matias Vacek. Côté français, au classement général, c'est Romain Bardet qui est le mieux placé. Il pointe ce matin à la 21e place, à 1 minute 10 du leader.
Et puisqu'on parle de vélo, je vous rappelle ce rendez-vous en bref sur le territoire. Et c'est ce samedi, de 8h à 16h, qu'auront lieu les portes ouvertes sur la piste de BMX. Ça se passe du côté de Tina.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Et la météo, c'est avec vous Thierry.
Oui, ce matin, des averses circuleront encore sur l'extrême sud et au LET dans une moindre mesure sur l'est. Ailleurs, le soleil sera bien généreux. Le vent pour ce matin, orienté est, s'établira autour des 15 nœuds jusqu'à 15 à 20 nœuds, ce sera sur la pointe nord. Sur l'ouest, il sera tout d'abord établi au sud-est autour des 10 nœuds. Cet après-midi, large soleil sur l'ouest et la pointe nord. De faibles averses sous un ciel plus nuageux seront possibles ailleurs. Le vent est à sud-est, l'orientation autour des 15 nœuds, voire 15 à 20 nœuds sur la pointe nord. Les températures, elles comprennent comprise en général entre 27 et 29 degrés.
Merci beaucoup Thierry, merci à tous d'avoir suivi ce journal. Je rappelle qu'il sera disponible en réécoute sur notre site internet le www.rrb.nc. Dans un instant, le rappel des titres de l'actualité, puis le billet d'humeur de la rédaction sera signé Jean-François Baudin et ensuite vous avez un avis, vous nous appellerez au 25 46 46. À tout de suite.
Toute l'info en trois lettres, RRB.